l'écoute de Radio Orion, bienvenue à toutes et à tous, amis auditeurs. Le plaisir de vous accompagner à travers votre émission Sawa. Sawa, aujourd'hui, se consacre à cet bel événement qui se faufile prochainement, là, justement, ce samedi 22 février à l'IFCM, donc l'Institut français de civilisation musulmane à Lyon. Donc, l'IFCM accueille son premier événement culturel ce samedi 22 février dans le grand amphithéâtre pour un hommage rendu à la terre du Khorasan, Iran, par la poésie, justement, le chant et la musique. Un trio sera formé pour cette belle occasion. Notre invité ici présent, Reza Afshar Naderi, qui lira des poèmes en hommage à la terre du Khorasan. J'aime bien prononcer le Khorasan, et bien sûr il va y avoir Khorasan, donc c'est un territoire qui à l'époque médiévale couvrait la partie orientale de l'empire perse, tandis que Aïda Nostra l'accompagnera au chant et au violon, ainsi que Badak Amir Mobcher à la guitare. On parle aujourd'hui de poésie, les questions de parler de poésie, de culture persane. Bien sûr, on va pas pouvoir parler de tout parce que ce beau pays, ce magnifique pays qui est l'Iran, a une culture, bien sûr, elle est à la, enfin, toutes les civilisations ont pris leur source en culture, en savoir, en savoir-faire, justement, dans ce beau pays, à travers un beau peuple qui est très souvent actuellement lié à des clichés, injustement d'ailleurs. On en parle avec notre invité aujourd'hui, Reza Afshar Naderi. Bonjour Reza. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous allez présenter un concert ce samedi 22 février à l'IFCM à Lyon.
Oui.
Comment vous est venue l'idée, ou est-ce qu'on vous a invité? Comment, qu'est-ce qui les a poussés à vous inviter, vous, et mettre à l'honneur cette belle culture persane?
Eh bien, je vous remercie, puis je remercie Radio Orient de m'avoir invité, et je vous félicite, vous avez très bien prononcé tous les noms, aussi bien le Khorasan que mon nom de famille, qui n'est pas évident, parce que beaucoup flanchent quand il s'agit de prononcer, c'est un nom à rallonge. Et alors effectivement, c'est un plaisir pour moi de pouvoir présenter ce concert. On est à deux jours du premier concert, du tout premier concert, qui aura lieu à l'Institut français des cultures musulmanes, et on est très honorés. Aïda Nostrat, donc chanteuse, violoniste, Babak Amir Mobacher, guitariste, tous les deux des virtuoses en matière de musique,
et
en matière de chant.
Je confirme, je vous ai écouté.
Ils sont très très impressionnants. Mm-hmm. Et puis moi-même, donc on forme un trio, comme vous venez de le dire, avec cette particularité que le public, il a la possibilité, à travers les textes, les poèmes, les chants que je vais déclamer, qui sont mes propres traductions, des chants qui vont suivre, des traductions poétiques, je précise, donc en rythme, en mesure, le public peut prendre connaissance avant même que donc le chant et la musique se mettent en mouvement, mm-hmm, du contenu de ces textes.
Là,
je pense qu'on est un peu unique dans ce format-là.
C'est clair, et puis je confirme d'ailleurs, et puis on y reviendra justement au déroulement de cette belle soirée de ce samedi. Il faut savoir qu'on a beaucoup de nos amis auditeurs et auditrices du côté de Lyon qui nous écoutent à l'instant, qu'on salue d'ailleurs, et puis pas que à Lyon, dans la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, qu'on salue d'ailleurs. Donc Reza Afshar, ami auditeur, Naderi, et poète, traducteur de poésie persane, performeur et auteur de scènes slam, titulaire d'un doctorat de littérature persane. Rien que ça.
Oui, des doctorats de littérature persane et slameur, c'est plutôt rare en même temps.
Donc, vous avez travaillé comme journaliste en France et à l'étranger dans une quarantaine de pays. Il est l'auteur, vous êtes l'auteur d'une anthologie de poètes contemporains iraniens.
Tout à fait.
Donc, Aube Nouvelle. nouvelle, poète libertaire, durant son, votre dernier livre est consacré aux forgerons dans le livre des rois de
Ferdowsi,
épopée nationale et œuvre majeure de la poésie persane du Xe siècle.
Oui, et j'en profite pour me faire un peu de publicité parce que j'ai un nouveau livre qui va sortir tout prochainement, dans un mois, qui est aussi une anthologie bilingue, donc en perso en français, de chants patriotiques d'Iran. Du début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui.
Eh bien, écoutez, c'est une occasion à travers vous, cher Reza Afshar Naderi, d'inviter nos auditeurs et auditrices du côté de la région Auvergne-Rhône-Alpes d'aller visiter justement cette belle bâtisse.
Oui,
qui
tout
est
nouveau, tout frais.
Absolument, l'IFCM. Moi, ça m'est arrivé très souvent d'aller à Lyon et je vous assure que c'est une très très belle bâtisse. Donc, l'Institut français des civilisations françaises, puisqu'il n'y a pas qu'une seule civilisation, bien sûr. Et aujourd'hui, il est question de la civilisation persane, cette civilisation qui est vraiment magnifique. On est tellement emporté par plein de savants tels que Rumi, Shiraz, Razi,
à face de Shiraz,
et donc on a une idée sur la culture persane ou la littérature persane, la poésie persane, qu'elle est, qu'elle a une forme liée au divin, du soufisme. On n'a pas une idée de cette l'autre côté, l'autre forme de la poésie, de la littérature persane. Parlez-nous-en un petit peu.
Alors, en fait, vous m'avez interrogé sur ce qui a fait que nous avons eu cette opportunité de proposer ce concert à l'IFCM. Et il se trouve qu'il y a 3 ans, donc on a déjà présenté ce concert
à l'Institut du Monde Arabe.
C'était à l'occasion de la nuit de la poésie, mais le format était beaucoup plus court. C'était aux alentours de 25 minutes.
Oui.
Et donc c'est un échantillon de ce qu'on va faire, après-demain. Et donc j'étais en relation avec Monsieur Kamel Kaftan, qui est le président fondateur de l'IFCM. Et il avait beaucoup aimé donc cette interprétation que nous avions fait, il a dit, ce serait bien qu'on fasse quelque chose chez nous, et puis je l'ai pris au mot, et puis je l'ai pas lâché, et puis finalement, donc
et
ça
qu'on
s'est
salue
fait.
Parce que lui, il œuvre beaucoup pour la culture, le rapprochement des peuples,
absolument,
les civilisations.
Oui, alors, en quoi consiste ce format, justement, le thème est celui du Khorassan. Alors, le Khorassan, d'abord, j'ai une petite leçon d'étymologie. Que signifie le Khorassan? Il est composé de 2 mots, c'est un nom composé, de Khor, Khor qui signifie le soleil, qui donne en persan Khorshid, et Anson. Et Anson signifie dans cette direction. Donc, le sens du mot complet signifie le soleil vient de cette direction. Le soleil vient de là. Et en fait, ça désigne ce qui, à l'époque médiévale, consistait en un grand Khorassan qui était donc se trouvait à l'est de l'Iran et qui comprenait l'Afghanistan actuel,
absolument,
le sud du Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le nord-est de l'Iran. Donc toute cette région s'appelait, c'est l'équivalent d'un pays, c'est-à-dire que si on reprend les limites, les frontières géographiques de ce grand Khorassan de cette époque médiévale, c'est l'équivalent de la surface aujourd'hui de l'Iran. Donc c'était un pays à lui tout seul. Ce n'est pas qu'une région, c'était un pays à lui tout seul. Et aujourd'hui, donc il est réduit à une province, alors une grande province néanmoins, qui se trouve au nord-est de l'Iran, qui s'appelle le Khorassan. Il n'y a pas aujourd'hui d'autres régions qui s'appellent le Khorassan, donc cette région est limitée au nord-est de l'Iran. Cela dit, l'Afghanistan, le nom médiéval de l'Afghanistan, c'était le Khorassan. Et ce qui reste vivant de tout ça, ce qui perdure, c'est la tradition littéraire, la poésie, donc les textes, et bien entendu les chants et la musique. Et nous, on a eu envie de dépasser les frontières de l'Iran, aller plus loin, et on s'est dit que avec Kamel Kaftan, ce serait intéressant de voyager un peu plus du côté de l'Asie centrale. Donc on connaît un peu le Maghreb, Moyen-Orient, aller encore plus à l'Est, donc Asie centrale jusqu'aux frontières de la Chine. Et à ce moment-là, donc parler de la culture musulmane qui a prévalu donc à cette époque dans cette aire géographique.
Retour avec vous, amis auditeurs, toujours le plaisir de vous accompagner à travers cette émission spéciale spéciale littérature, poésie et chant du Khorasan, Khorasan, n'est-ce pas, avec notre invité Reza Afshar Naderi qui va bien sûr participer à ce concert ce samedi 22 février à partir de 18h à l'IFCM, donc l'Institut français des cultures musulmanes à Lyon. On revient justement où on s'est arrêté toujours autour de Khorasan, votre ville natale.
Alors, c'est ma ville natale, et en même temps, je disais, c'est un territoire sacré pour une deuxième raison, c'est que c'est ici que se trouve le plus grand pèlerinage musulman d'Iran. C'est là où est enterré l'imam Reza, et comme par hasard, donc je m'appelle Reza,
en plus,
mais il se trouve que beaucoup de personnes qui sont nées donc dans cette province, on leur donne le nom de Reza. C'est un hommage à cet imam, donc c'est le 8e imam de la tradition chiite, qui a été enterré à Mashhad. Et c'est le lieu le plus important de pèlerinage donc en Iran des musulmans. Voilà. Donc c'est un double intérêt. Alors pour revenir donc à Ferdowsi, donc il a donc produit cette somme énorme et épique, mais en même temps il y a d'autres grands poètes à commencer par Omar Khayyam, qui est grand grand poète iranien, qui est le plus traduit au
absolument.
Monde.
Absolument.
Jalaluddin Rumi. Alors lui, pour Rumi, sur ses origines, vous avez les Afghans, les Iraniens et les Turcs qui se bagarrent, parce que chacun se réclame, donc il dit voilà, il appartient à nous, donc les uns disent qu'il est Afghan, les autres disent qu'il est Iranien, les autres disent qu'il est Turc. Il se trouve qu'il est Nabalkh, qui est une ville qui se trouve en Afghanistan, mais à l'époque, ça faisait partie de l'empire qui comprenait la Perse. Il a écrit en persan, donc les Iraniens disent il est iranien, mais en même temps, donc né en Afghanistan, écrit en persan, et il est mort en Turquie.
Et comme c'est des pays frontaliers, donc résidé dans chaque pays, et puis là où il a laissé des traces littéraires
exactement.
Importantes.
Et tout le monde se bagarre et dit là, nous, bon, moi je pense qu'il est à tout le monde. Donc sa poésie est à tout le monde. Et alors, Rumi, Jalaluddin Rumi, qu'on appelle aussi Molavi. Molavi, c'est un des mots qui signifie notre maître, qui est à l'origine de la confrérie des Molavis. Donc on connaît pour le côté touristique uniquement les derviches tourneurs, le soufisme. Alors qu'est-ce que vous dire ? Alors c'est devenu très tendance, Molavi, parce que j'ai su que Madonna l'avait chanté, et puis il semblerait qu'il y a un film qui est en train de se faire où Leonardo DiCaprio va jouer le rôle de Molavi. Donc c'est très tendance. Pardon ?
C'est une nouvelle.
Mais j'ai vu ça j'ai lu ça dans la presse il n'y a pas longtemps. Donc Molavi, maintenant il devient très très connu, Rumi. Donc
tant mieux.
Et puis je vous ai parlé de ça. Il y a Fahreddin Attar. Qui aussi est né dans le grand poète, qui a écrit un livre qui s'appelle La conférence des oiseaux, et qui a été connu en France parce que Jean-Claude Carrière, donc le metteur en scène, l'a mis en scène sous forme de théâtre. Et vous avez d'autres auteurs contemporains aussi qui sont de grands auteurs nationaux, comme par exemple Mehdi Akhavansoles, alors ça c'est 20e siècle, grand auteur national aussi, qui a été enterré à côté du tombeau de Ferdowsi, qui se trouve aussi dans le Khorasan, et puis d'autres aussi, un poète alors vivant, celui-là, qui est Shafi Kadkani, que j'ai eu l'honneur de le rencontrer parce que j'ai traduit ses poèmes, dans le livre que vous venez de citer, et donc il m'a reçu, je lui dis, c'est des auteurs, c'est des monstres sacrés de la poésie, c'est vraiment des icônes vivantes de la poésie persane.
C'est génial. En tout cas, vous dites que la poésie est une partie indissociable de l'ADN perse.
Oui.
Donc justement, parlez-nous de cette fougue qui anime le peuple iranien pour la littérature, cet amour et cette passion pour la poésie. Ils parlent, ils échangent entre eux.
Absolument.
À travers la poésie.
Absolument. Je dis toujours que la poésie en Iran, c'est la deuxième langue vivante. C'est la deuxième langue vivante. C'est-à-dire que c'est-à-dire que je vous cite des exemples très concrets. J'avais pris un taxi à Téhéran il y a 2 ans. Il y avait des embouteillages et puis il y avait un jeune homme qui se faufilait, qui essayait de nettoyer les vitres il y a la voiture qui était devant nous, donc on était à l'arrêt, et donc tout le monde pestait, et puis donc le chauffeur, le conducteur du voiture qui était devant a engueulé le gamin, il a dit écarte-toi, et puis le gamin s'est mis à l'insulte, à le traiter tous les noms, et en des termes très crus, et puis le conducteur de taxi, il m'a dit, c'était un poème, il m'a dit, Tarahum bar palingistis dindon, c'est un kori bovat bar gusfandon. Alors je vous traduis. C'est-à-dire faire preuve de pitié envers le tigre aux dents acérées, c'est exercer une injustice envers les moutons.
Oh là là.
C'est-à-dire que voilà, des voyous comme ça, comme des tigres, donc faut pas leur faire de pitié. Mais au lieu de le dire normalement, comme tout le monde l'a dit en poésie.
C'est génial.
Voilà, donc les gens parlent en poésie, vous allez chez votre dentiste, il va vous sortir un 4-1, au lieu de vous expliquer quelque chose pour dire attention, faut être soigneux, bien brosser vos dents, il va vous le dire en poésie. Donc les gens là-bas s'expriment, la poésie accompagne. L'Isérien du berceau jusqu'à la tombe. La poésie.
D'ailleurs, on trouve ce genre de poésie populaire dans le Maghreb, en Orient aussi. Hein, donc, en tout cas, je pense que c'est une forme d'échange, de communication orale.
Oui.
Est-ce que, absolument. Justement, en parlant d'oralité, est-ce que en Iran, la poésie, la littérature persane, elle se transmet oralement ou...
Ah oui, absolument. C'est-à-dire Alors, j'ai entendu dire qu'il y a même des Iraniens qui certains illettrés, qui connaissent donc des centaines de vers par cœur et qui en produisent aussi. Alors, ça se transmet parce que ça se récite. Si vous voulez, la condition sine qua non pour qu'une poésie puisse exister, c'est réciter, c'est oraliser. À partir du moment où vous ne le récitez pas au grand jour... Bah, les livres de poésie, les recueils de poésie finissent sur les rayons des bibliothèques et ils finissent par mourir.
La condition
sine qua non absolue pour que la poésie puisse exister, c'est que les citoyens les récitent au quotidien. Mm-hmm. On les récite à l'école, on apprend à l'école. Et puis alors il y a aussi un phénomène, alors ça se perd un peu en Iran malheureusement, parce que vous savez, il y a cette tendance de la mondialisation. Hein. Ouais. Tout le monde finit par se mettre à l'heure de New York, Shanghai, Tokyo, etc. Mais il y avait ces traductions. Moi, quand j'étais gamin, on se retrouvait à Machad. Donc, on allait en vacances, parce qu'après, on habitait à Téhéran, à Machad, dans la maison de mes grands-parents. Le soir, on se réunissait autour du bassin. Il y avait un petit bassin. On apportait le thé, les gâteaux, les fruits. Et on se livrait à des joutes poétiques.
C'est incroyable.
Trois générations. Mon frère, moi, j'étais trop petit encore. Mon frère, il était un petit peu plus grand. Il avait quoi, 13-14 ans. Ensuite, les parents, donc mes oncles, les tantes et mes grands-parents. Et donc, il se livrait à des joutes poétiques. C'est Rionin qui commençait. Il lisait deux ou trois vers. Et la fin du dernier vers, la lettre de la fin du dernier vers, par exemple la lettre Dal, le suivant devait réciter quelque chose qui commence avec cette dernière lettre.
Oui.
Et ainsi de suite, comme l'étape
tournante. Et on trouve ça dans la culture orientale et maghrébine aussi.
Ça trouve aussi. Oui. Moi, j'ai des amis syriens, je pense que... Donc, ils m'ont dit qu'aussi, là-bas, c'est très, très vivant, cette façon de partager oralement la poésie.
Il y a beaucoup de savants, puisqu'à l'époque, comme à l'époque de Razi, Shiraz, etc., ces grands savants, ils voyageaient énormément. Et ces voyages ont permis la transmission. Et cette transmission orale et écrite a permis aux orientaux et même au Maghreb actuel d'avoir cette culture d'oralité. Et donc les enfants, dans leur jeune âge, apprennent à réciter.
Oui, absolument.
Non seulement à côté du Coran, c'est une tradition, on apprend le chant, les poésies.
D'ailleurs, dans les maisons en Iran, vous avez, on dit toujours, il y a deux livres qui se trouvent sur les étagères. Hein, il y a au moins deux livres. D'une part, c'est le Coran. Et l'autre, c'est les Ghazals de Hafez de Shiraz. Donc, la poésie et le Coran.
Le Ghazal, c'est Al-Ghazal.
On traduit ça par poème lyrique.
Lyrique.
Un poème lyrique.
D'amour.
D'amour, quand en général. Et puis, en général, c'est une forme assez courte. C'est entre 14 et... 14, 20, 25 distiques, donc groupe de deux vers. Bon, parfois ça va beaucoup plus loin. Mais Hafez de Shiraz, c'est celui qui a porté le genre à son sommet. Donc le Ghazal de Hafez de Shiraz, c'est le top du Ghazal de la poésie lyrique en Iran.
On voit que cette poésie anime le quotidien du peuple iranien. Comme je le disais au départ, on a de nos jours, dans notre société contemporaine, des clichés mutilantes des cultures, pour ne pas dire d'une culture. Très souvent, des cultures telles que la culture perse, et d'autres cultures à côté, eh bien, elles sont marginalisées, bafouées, très souvent sous des clichés, vraiment. Et puis, quelle est la place de des personnes qui s'occupent de la culture persane? Quel rôle ont à jouer maintenant, actuellement, dans ce monde où la culture, elle est bafouée de cette manière-là?
Et la fonction de la médiatisation, déjà. Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que, donc, en Occident, on a un peu tendance à fonctionner d'après des clichés. La poésie, par exemple, quel est le regard qu'on a sur la poésie iranienne? C'est un regard selon lequel la poésie est essentiellement mystique. Alors c'est faux, la poésie iranienne n'est pas que mystique. Il y a des poètes de très haut niveau, il y a des poèmes remarquables, il n'y a pas que de Rumi, parce qu'on connaît plus que Rumi,
mais c'est la forme la plus connue.
Alors,
hélas.
En Europe, en Occident, oui. Malheureusement, c'est la forme la plus connue. Parce qu'on considère, alors je ne veux pas faire de schéma, je ne veux pas faire de caricature, on considère quelque part en Occident, pour dire les choses de manière simple, que nous sommes la modernité et la poésie en Iran, la poésie persane, c'est dédié à une forme d'orientalisme et de mysticisme, alors qu'il y a une poésie contemporaine qui est sublime, qui est très populaire, et comme je vous disais, il y a aujourd'hui des poètes vivants du 21e siècle qui sont vraiment des monstres sacrés de la poésie.
Et cette
poésie
est très peu connue. Justement, qui s'occupe de la transmission de ces écrits
internationaux? C'est la transmission à l'international, si je puis dire. Ces poètes existent en Iran, ils sont connus, ils sont reconnus. Mais moi, j'essaie à mon petit niveau aussi de faire connaître cette anthologie que vous venez de citer des poètes libertaires d'Iran du XXe siècle. Il y a 7 poètes qui sont, je disais, des icônes, des monstres sacrés de la poésie en Iran, qui sont dans le prolongement, qui n'ont pas coupé avec les racines, qui sont dans le prolongement de ces racines de la grande poésie persane, qui sont très très peu connus en France. On connaît Saadi, on connaît Hafez, on connaît Khayyam surtout, mais tout ça c'est la période médiévale. Mais la période contemporaine, non, on ne connaît pas parce qu'on aime bien considérer que, bon, il vaut mieux qu'on reste où on est, c'est-à-dire dans l'orientalisme, dans le mysticisme, et qu'ici, c'est la modernité, la poésie moderne et l'apanage, donc, de l'Occident.
Et peut-être le contexte actuel géopolitique qui fait que l'embargo culturel aussi est bien existant. Mais justement, on va en parler juste après cette petite pause qui va nous présenter Mohamed. Une pause musicale avec Mohamed. Donc, en attendant la musique qu'on propose.
Alors, je peux le citer?
Oui, bien sûr.
Alors, c'est qui est qui est, hein? Donc, ce morceau que vous allez entendre, c'est le titre, c'est qui est-ce qui frappe à notre porte?
تو قمر در عقرب کار ما چ
Toujours avec vous, amis auditeurs, avec cette émission spéciale culture persane, avec nous notre invité Reza Afshar Naderi, qui va participer à un événement proposé par l'Institut français de civilisation musulmane, un concert intitulé Soleil levant au Khorasan. Au Khorasan, comme j'aime le dire, ce samedi 22 février à partir de 18h, donc à l'Institut français de civilisation musulmane. Pour revenir à ce petit morceau qu'on a écouté, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot autour de ce petit...
Oui, alors ça c'est une des chansons qui va être interprétée après-demain à l'IFCM et qui s'appelle « Qui donc frappe à notre porte ?» Et alors comme tout récit amoureux, tout poème amoureux en Iran, il y a une part d'extase et il y a une part de souffrance, hein, l'un va sans l'autre. Et alors si vous permettez, je voudrais juste lire la traduction en français, parce
avec
que c'est
plaisir.
Comme ça qu'on va procéder pendant le concert,
avec
c'est
plaisir.
Un peu l'originalité de la démarche.
Avec plaisir.
Alors je vais vous lire la traduction que j'en ai faite. La belle courbe de tes mèches, telle le dard du scorpion, reçoit la lune en sa demeure. Tant que la lune en sa demeure constellée se maintiendra, t'élancera sera de notre histoire. Qui donc vient marteler ainsi ma porte? Mon cœur tressaille de l'entendre, j'entends que frappe le heurtoir de l'étranger, mon cœur tressaille de l'entendre. Ô toi, mon ange, viens te poser à mes côtés, épargne donc mon cœur lassé, va loin de moi, épargne mon âme, pour qu'à toi mon âme je sacrifie. Le narcisse de ton regard baigne dans l'ivresse, et ma fortune est dévastée. Moi, ma fortune me vient de toi. Toi, ton regard brille d'ivresse.
C'est magnifique, bravo. Merci.
Merci.
En tout cas, la traduction, elle est. Je ne connais pas le persan. J'aurais aimé, mais la traduction, elle est tellement belle. Et le poème, elle est porteur.
Ben merci. En fait, donc je travaille beaucoup sur la musique des mots. Hein. Je suis moi-même poète et donc j'ai un sens musical. Puis je considère que à partir du moment où donc un traducteur s'engage à traduire de la poésie, je pense qu'il faut qu'il soit lui-même poète.
C'est clair.
On perd la musique des mots, mais ça, c'est plus de la poésie.
Pour être fidèle, justement, à ce qui se dit, donc, dans...
Faut retrouver une musique des mots, sinon c'est de la prose.
Absolument.
Et alors, je peux vous dire quelques mots, effectivement, de ce que dit cette poésie, qui est très énigmatique, hein, parce qu'on dit beaucoup de choses. Après, il faudrait le commenter, le décortiquer, c'est à sens multiple. Et déjà, on commence avec ce vers, la belle courbe de tes mèches, tel le dard du scorpion. La courbe des mèches de l'amant est comparée au dard d'un scorpion recourbé, comme la courbe de la mèche. Et donc, c'est quelque chose qui fait mal. Donc, ça vous met dans l'extase, ça vous transporte, mais en même temps, c'est les risques de l'amour. L'amour, ça fait souffrir aussi. Et le poète, alors, je précise aussi une chose, dans mes recherches, j'ai su que c'était un roi qui avait écrit ce poème, qui est Nasiruddin Shah, roi de la dynastie Qajar. Il a vécu au XIXe siècle, vers fin XIXe siècle. Il aurait écrit ce texte, qui apparaît, ce poème qui a été mis en musique. Et il y a des références très très savantes, parce que il dit « Le dard du scorpion reçoit la lune en sa demeure ». Ça veut dire quoi? Alors on se dit « Mais ça veut dire quoi? Le scorpion, la lune, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Mais ça, on le comprend quand on sait qu'il y a, dans l'astrologie, la Lune se déplace autour de la Terre, et quand il se déplace autour de la Terre, il passe par différentes constellations du zodiaque, dont la constellation du Scorpion.
Une autre dimension, là.
Alors, une autre dimension. Mmh. Donc, on peut voir ça au niveau primaire, on peut voir ça à un niveau beaucoup plus subtil, si vous voulez. Mmh. Et quand la Lune, au dire des astrologues, mais aussi des religieux, quand la Lune entre dans la constellation, dans la maison du Scorpion, alors là, c'est un moment funeste. Et à ce moment-là, eh bien, il y a des choses qu'il faut pas faire, parce que vous prenez des risques. Par exemple, faut pas se marier. Ça dure 3 jours, ce passage de la Lune dans la maison du Scorpion, faut pas se marier, faut pas construire de maison, faut pas former des projets, faut attendre que ça passe, parce que c'est un moment qui est funeste. Et en même temps, il est question d'amour, Et alors donc je disais qu'on compare la boucle des cheveux de l'aimé au dard du scorpion, ça fait penser au dard du Cupidon, à la flèche de Cupidon qui rend amoureux. Donc ça vous pique, ça vous fait mal et ça vous rend amoureux. Et là vous êtes mal parti. C'est là où les malheurs commencent. Et en même temps il est dit j'entends frapper le heurtoir de l'étranger. Le heurtoir donc c'est le marteau sur la porte. Et donc le cœur de la femme qui est amoureuse se met à battre quand elle entend frapper à la porte. Mais quand on connaît un peu l'Iran et l'architecture traditionnelle, on sait aussi que sur les portes, il y a deux formes de heurtoirs. Il y a celui en forme de cylindre et l'autre en forme de boucle.
Alors, on va continuer, si vous permettez, cher Reza, Afshar Naderi, juste après le flash de 15h avec François-Xavier de Calonne, qui sera là dans quelques instants. En tout cas, restez avec nous, amis auditeurs, on continue avec vous juste après le flash. Bonjour avec vous, amis auditeurs. Toujours le plaisir de vous accompagner à travers ce rendez-vous culturel comme chaque jeudi. Aujourd'hui, il est question de culture persane. On parle aujourd'hui de ce concert événement à l'Institut français des civilisations musulmanes à Lyon. Bien sûr, un concert qui s'intitule « Soleil levant au Khorasan », poésie et chant perse, lecture par notre invité ici présent, Reza Afshar Naderi, chant et violon par Aïda Nosrat et guitare par Babak Amir Moubachar, qui représente le groupe Manouchan. Donc par la poésie, le chant et la musique, un hommage sera rendu à cette belle terre du Khorasan, qui signifie là d'où vient le soleil, amis auditeurs, et qui évoque une vaste contrée qui fut un phare de la culture orientale entre l'Asie mineure et l'Asie centrale. Merci encore une fois d'être là avec nous, docteur Reza Afshar Naderi. Donc on parlait justement de poésie, etc. Donc une œuvre artistique, comme vous le savez si bien, raffinée, marque toujours l'histoire. Que peut-on laisser à l'humanité si ce n'est des œuvres conduisant à la compréhension des nuances et des émotions subtiles, telles que les poèmes que vous nous avez lus juste avant le flash. L'Iran, avec sa littérature, ses penseurs, ses philosophes qui ont formé ou fortement contribué à cette civilisation humaine. Parlez-nous justement comment qualifier l'apport de la culture persane dans l'histoire de l'humanité, docteur.
Je vais juste terminer, si vous permettez mon petit bon commentaire. Évidemment. Sur ce que j'avais commencé avant,
évidemment,
avant la pause.
Vous avez bien raison.
Et donc c'est ce poème donc qui est très prenant, si je puis dire, qui est intitulé « Qui frappe à notre porte ?» Et donc, on se trouve dans la peau de l'amante qui entend frapper, et donc elle est bouleversée, son cœur se met à battre très vite, et je vous disais que dans l'architecture traditionnelle, les portes des maisons traditionnelles iraniennes sont à deux battants, et chaque battant comporte un marteau, un heurtoir différent. C'est pas comme en Europe, vous avez un anneau, donc là-bas ça se passe comme, c'est pas comme ça. D'un côté, il y a un anneau, mais de l'autre côté, c'est pas un anneau, c'est quelque chose, un heurtoir de forme cylindrique. Pourquoi? Parce que quand un homme vient, il doit taper avec le marteau de forme cylindrique, et quand c'est une femme, il doit frapper avec le marteau en forme d'anneau. Ça rend des sons différents. Celui de forme cylindrique rend un son qui est plus sec. Et la femme qui est à l'intérieur, elle sait que c'est un homme. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vite se couvrir. Mais si c'est donc l'autre anneau qui rend un son plus grave, Donc c'est une femme, et donc elle est tranquille. Et là, elle entend sonner, frapper, pardon, du côté de l'anneau qui rend un bruit sec. Et là, elle commence à paniquer. Et puis donc c'est l'homme, forcément l'amant dont elle est prise. Elle dit voilà, c'est mon malheur qui arrive. Et dans le poème, c'est écrit oh mon ange, viens te poser à mes côtés. Et puis un peu plus loin, elle dit va loin de moi. Alors ah, on oui. s'est dit c'est parce qu'elle veut.
C'est très subtil là.
C'est parce qu'elle veut. En fait, voilà, donc c'est une tempête. Quoi. C'est l'amour. On est un peu ballotté dans tous les sens. Et puis une dernière image. Donc je termine là-dessus, qui est aussi très très subtil, parce qu'il faut vraiment rentrer dans le détail des métaphores. Il dit le narcisse de ton regard, mais dans l'ivresse. Mais alors le narcisse, c'est une fleur qui est pleine de signification. Narcisse en persan se dit narges en arabe, et donc c'est la jonquille qui annonce le printemps. Le printemps, c'est quoi? C'est la saison des amours. Donc il est le narcisse de ton regard, et en même temps le narcisse, ça représente aussi, donc c'est aussi un événement, ça symbolise aussi un événement funeste. Donc ça comporte aussi cette double, cette dualité entre l'amour et l'angoisse et ce moment redouté. Et puis elle finit en disant « ma fortune est dévastée, voilà, donc je suis tombée amoureuse de toi, donc je sais plus quoi faire ». Je suis perdu, et puis dit, toi, ton regard brille d'ivresse. Parce que Narcisse, maintenant, on va retourner à l'Occident. Ben, Narcisse, c'est quoi? En Iran, c'est un nom de femme, mais en Occident, c'est un nom d'homme. Narcisse, c'est le nom, donc c'est le fameux mythe grec, donc le texte, ça remonte aux alentours du deuxième siècle. Donc, un jeune homme, beau, très content de lui-même, et un jour, il découvre son image en reflet dans l'eau.
Dans l'eau, oui.
Et donc, après, donc pour lui, c'est un drame, c'est une tragédie, parce qu'il n'arrive pas à s'emparer de son image, et se laisse dépérir, et il meurt, et puis on dit que, donc, de son sang naîtra à ce moment-là un plan de Narcisse. Donc, le jeune homme content de lui-même, la femme amoureuse de lui, donc c'est un amour sans retour. L'amour impossible, c'est l'amour absolu. Voilà, c'est
absolument
la leçon qu'il faut en retenir.
En tout cas, c'est le duel éternel entre le cœur et la raison.
Oui.
Évidemment, et c'est très très beau comme traduction. En tout cas, on est ravis de l'entendre de votre part. Et puis, nos auditeurs, ceux en tout cas qui habitent du côté de Lyon ou la région lyonnaise, auront le plaisir de vous rencontrer ce samedi 22 février à 18h du côté de l'IFCM, donc l'Institut français des civilisations musulmanes. Justement, pour revenir maintenant à cette participation de la culture persane dans l'histoire de l'humanité, comment la qualifiez-vous, cet apport de cette culture à l'humanité? Évidemment, à travers les siècles, on connaît Razi, hein, médecin alchimiste persan, et on connaît aussi Avicenne, on connaît médecin philosophe. Donc, il y a toujours la médecine liée aux maths, liée aussi à la littérature. Donc, c'est des savants,
c'est vrai.
Complets, enfin.
Oui, c'est
ça, mon complet.
Bon, on cite souvent le cas de Omar Khayyam, qui a créé le calendrier iranien, donc qui est astrologue, qui était mathématicien, algébriste, et puis d'autres.
Qui ont contribué la science et la médecine aussi énormément.
Oui, la science et la médecine. Bon, pour ma partie, qui est plutôt la poésie littéraire, l'Iran, ça a été un lieu de passage, ça a été un carrefour de transmission. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Par exemple, le fameux récit de Kalila wa Dimna.
Kalila wa Dimna.
Cet ensemble de fables, de contes, mais qui est d'origine indienne, qui s'appelait Panchatantra, et qui a été traduit sur les ordres d'un souverain iranien sassanide, la dernière dynastie régnant en Iran, et donc qui a été traduit en persan. Après, par Ibn Murafa, qui était traduit du persan en arabe,
et c'est sous
cette forme-là que ça s'est répandu dans le monde, en Occident. Donc, ils ont été, si vous voulez, des passeurs. Ils ont été des passeurs aussi bien depuis les dynasties les plus anciennes, depuis la dynastie des Achéménides, ce qu'on appelle les Perses, les premiers Perses, 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 7e siècle. Après Jésus-Christ, c'était la superpuissance du monde oriental, mais en même temps, donc il y a une sorte de phare culturel, si vous voulez, et c'était un lieu d'échange. Vous prenez le palais de Persépolis, qui s'inspirait d'architecture à la fois grecque, à la fois égyptienne, à la fois syrienne, voilà, donc c'était un pays où circulait le savoir, circulait la culture avec une grande ouverture, et si vous voulez, l'influence, l'héritage, c'est le monde entier qui en profite. Et
c'était des siècles de lumière au moment où l'Europe était
oui, c'était des siècles de lumière. D'ailleurs, tout le monde le dit. Hein. Moi, les amis français me disent « Ah oui, la Perse, c'était une grande civilisation. » Ils en sont conscients, ils le savent. Ils le savent que c'est une grande civilisation. Bah, ce qui serait bien, ce serait que, justement, on parle de clichés tout à l'heure, qu'on s'intéresse un peu plus à d'autres, je vais parler que de poésie, culture. Parce que bon, avec, je connais très bien la culture française, le français c'est comme ma deuxième langue maternelle, et pour la poésie, je trouve que c'est dommage qu'en France, la poésie ne représente plus grand chose dans la vie des citoyens. Je dis, c'est le genre oublié, la poésie n'est plus dans le quotidien des Français.
C'est vrai qu'il y a une régression par rapport
Absolument, il y a une régression. Moi, j'ai fait des études, la poésie française, la poésie en France, ça représente quelque chose comme 0,3% du marché de l'édition. C'est trois fois rien. Parce que elle ne vit plus, hein, je dis, pour faire vivre, bah, il faudrait l'enseigner dans les écoles autrement. Que les élèves apprennent par cœur. C'est pas bien vu aujourd'hui d'apprendre par cœur. Mmh. Vous savez, ils ont un terme dans l'éducation, ils disent psittacisme, c'est dévalorisant. Ils disent faire le perroquet. Ben non, c'est comme ça qu'on apprend, c'est par la répétition. Il faut justement faire le perroquet pour apprendre, quand vous l'apprendre autrement. Et donc, il y a cette déperdition, si vous voulez, de ce patrimoine poétique français qui s'est arrêté pour moi au milieu du XXe siècle, avec des grands poètes comme Aragon, Éluard, Apollinaire. Et après, donc, c'est devenu un genre qui a été oublié, qui ne se trouve plus dans le quotidien français, parce qu'on ne pratique plus et on ne se rattache plus aux racines culturelles, littéraires, politiques de la France.
C'est en cours de perdition, vous pensez?
Oui, je pense, oui. Et puis la poésie...
Qu'est-ce qu'il faut pour réveiller un petit peu les consciences?
Il faut qu'ils retournent à leurs racines. Il faut qu'ils se remettent à réciter du Baudelaire, il faut qu'ils se remettent à réciter du Rimbaud, qu'il faut qu'ils récitent des auteurs médiévaux, qu'on récite du François Villon, du Hugo. Faut pas avoir honte de réciter par cœur du Victor Hugo, parce que c'est considéré comme ringard, comme vieux, passéiste. Ben non, c'est des choses qui ne vieillissent pas. C'est Victor Hugo reste moderne, François Villon reste moderne, Boileau reste moderne. Et il y a ce malentendu, si vous voulez, cette manière un peu biaisée de voir les choses, de se dire voilà, la modernité, c'est oublier le passé, c'est faire table rase du passé. Mais le futur se trouve dans le passé.
On essaie aussi de pencher plutôt du côté des facilités, donc de la langue. Donc du coup, on n'aime pas trop plonger dans la littérature médiévale.
C'est exigeant, bien sûr.
Elle élève les consciences.
On est dans un siècle de facilité. Voilà. Donc la liberté, la démocratie, c'est la facilité. Ouais. Mais c'est très exigeant et il faut faire ce travail. En Iran, vous avez donc cette relation entre maître et disciple. Le disciple suit l'exemple du maître. Il faut avoir des exemples. Ici, on vous dit ah bah faites ce que vous voulez. Donc vous exprimez, vous éclatez, vous défoulez, vous libérez. Mais non. C'est une question de contrainte, de discipline. Mm-hmm. C'est une ascèse. La poésie, l'apprentissage, c'est une ascèse.
On reste avec la poésie et on va prendre une petite pause, Mohamed. De retour avec vous, amis auditeurs, toujours le plaisir de vous accompagner à travers ce rendez-vous culturel et cet événement qui vous attend du côté de l'Institut français de civilisation musulmane, un concert intitulé Soleil levant au Khorasan, ce samedi 22 février à partir de 18h, donc à l'IFCM, Institut français des civilisations musulmanes. On a écouté juste avant la pause un morceau de chant intitulé.
Alors donc, et le titre en anglais c'est Swing Me, mais bon, on peut traduire par ton chant je danse. Ton chant je danse. Donc je danse sur ton chant. D'accord. Ça peut se traduire comme ça. Alors en fait, ce que vous avez passé tout à l'heure, c'est la première partie. Mm-hmm. C'est en deux parties. Mm-hmm. Le texte est de Aïda, le texte persan qui est chanté, et la musique. Et donc ça, c'est vraiment, c'est le reflet de son travail à elle. Ce qu'on entend, vous avez vu, c'était surtout le violon.
Ouais. Hein.
Et alors c'est
elle est violoniste.
Alors elle est violoniste, mm-hmm. mais c'est moi cette chanson et puis ce morceau de musique. Moi, je trouve que c'est sublime parce que dès qu'on entend le violon, donc on est dans des espaces immenses. Moi, je me crois quand j'entends ça, je ferme les yeux. Je m'imagine dans les steppes en Asie centrale, perdue en Mongolie par exemple, des espaces immenses, entourés de dunes de sable, des caravanes qui passent, et puis on observe ça depuis l'œil d'un aigle royal qui survole, elle déployée, ces espaces-là. Donc c'est absolument grandiose. Il y a un sentiment de grandiose dans cette première partie. Elle est ample, elle a quelque chose de grave, de solennel. C'est un chant aspiré. Et puis le nom qu'on invoque, c'est celui de l'être aimé, encore une fois, qui fait naître le désir. Et donc ça, c'est l'ouverture, si vous voulez. Après, il y a une deuxième partie. Alors là, on change de rythme après le prélude du début, donc la deuxième partie que vous allez passer, je pense, tout à l'heure.
Avant de finir l'émission.
Voilà. Donc là, on va assister à vraiment une éruption de sens. On va attendre la guitare, donc de Babak Amir Mobacher, qui va entrer dans la danse. On assiste à un duo musical endiablé. Voilà. Mm-hmm. Là, vous allez voir la voix de Aïda, qui va se déployer une succession des vocalises, donc juste le jeu de la voix avec des performances sonores impressionnante, avec des compositions jazzy, hein, ça c'est un peu leur spécificité, leur signature, la signature du groupe Manouchian, et là c'est vraiment du grand Aïda Nosrat, et on perd son souffle et la voix devant ses performances.
En tout cas, on promet à nos auditeurs que on aura un autre rendez-vous avec vous
et avec grand plaisir.
Et peut-être avec Aïda prochainement pour parler d'autres thèmes qui concernent la culture iranienne ou persane. Et justement, un petit mot autour de la place de la femme dans la littérature persane.
Oui, alors
là, on parle à l'instant de Aïda. Mais encore.
Oui, alors vous avez des grands poètes, vous avez des grandes poétesses de l'époque médiévale, et là encore au XXe siècle, il y en a en tout cas deux que j'ai traduits dans mon anthologie, Furuq Farrokhzad et Semin Behbahani. Elle est décédée en 2014, je crois, de mémoire, qui sont vraiment de grandes poétesses. Et comment dirais-je, avec des poétesses populaires. Une poétesse populaire.
En tout cas, juste un petit mot avant de finir concernant le déroulé de ce concert ce samedi, un mot et éventuellement un petit mot pour nos auditeurs.
Oui, tout à fait. Alors donc ce samedi, le samedi soir, je vais faire une petite présentation pour expliquer donc le Khorasan, l'esprit du Khorasan, sa spécificité. Donc je vais présenter les artistes et puis un peu moi-même. Et donc le déroulé, ça va se faire sur 8 chansons. Et donc sur ces 8 chansons, la moitié seront issues du Khorasan. Il y aura bien sûr Rumi tout au début, et puis il y aura donc un chant traditionnel du Khorasan. Il y aura une chanson intitulée La danse du sabre, et donc une autre intitulée Ma gazelle, qui sera chantée par une grande grande chanteuse, Simon Bina, d'envergure internationale. Donc elle donne des concerts à l'étranger. Et puis, donc, il y aura bien sûr ce que vous avez entendu tout à l'heure, le scorpion de Temesh.
Ben, en tout cas, ils vont voilà. Se régaler, j'en suis certaine, nos auditeurs ou le public qui viendra vous voir assister à votre spectacle.
On espère
ce
avoir
samedi.
Le plaisir de les recevoir.
En tout cas, le plaisir sera partagé. J'espère pouvoir y assister moi aussi ce samedi.
C'est la bienvenue.
Et donc, merci beaucoup. Merci donc pour réserver Issa Afshar Nadiri. Donc, je rappelle qu'il est représentant de ce concert. Hein, donc, j'espère qu'on aura le plaisir d'échanger avec vous prochainement autour de d'autres événements culturels. Je rappelle, amis auditeurs, que vous avez ce rendez-vous autour de ce concert événement Soleil Levant au Khorasan du côté de l'Institut français des civilisations musulmanes à Lyon. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à y parvenir, enfin, ou à assister à ce concert. D'ici là, restez avec nous. On va continuer, quant à nous, juste après le flash de 15h30.